c'est pas vraiment une semaine où on reprend des forces, on reprend de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se promène d'un bord puis de l'autre. On mange souvent, beaucoup. On fait toutes sortes d'activités avec les enfants. On va à l'extérieur patiner, glisser. On voit de la parenté. Beaucoup d'émotions dans la semaine de Noël. Et évidemment, bon, avec les émotions, tout ça, nous, souvent, ça vient gruger nos énergies. On se couche tard aussi, souvent des heures impossibles. Alors, on y a goûté cette semaine, mais, c'est vrai que Noël, c'est épuisant, mais en même temps, je pense qu'on peut se l'avouer franchement, là, Noël, ça a quand même du charme. Noël, ça a quand même une féerie particulière. Il y a même des gens qui parlent de la magie du temps des fêtes. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression-là. Un peu, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose dans l'air. On dirait que les gens ont un peu plus le cœur sur la main. On voit toutes sortes de reportages à la télévision. Et puis, ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est simplement poursuivre et clôturer la série qu'on a commencé la semaine dernière sur l'esprit particulier du temps des fêtes. Je pense qu'on peut s'entendre tout le monde aujourd'hui, ce matin, pour dire que Noël, dans notre culture québécoise, c'est vraiment un moment spécial de l'année. Un moment où est-ce que, oui, bon, on se promène, on fête, on célèbre, mais c'est vraiment quelque chose qui, dans notre culture, il y a plein de signes traditionnels qui reviennent, des choses comme évidemment la fameuse musique de Noël. J'ai appris la semaine passée qu'il y en a qui ça leur donne de l'urticaire, la musique de Noël. Mais bon, ça dure juste peut-être un mois, deux semaines. Fait que je pense qu'on peut quand même se le permettre. Mais ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est cet esprit-là de Noël. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement avoir l'esprit de Noël? Ben, ce qu'on peut remarquer, c'est que Noël, dans bien des foyers, ça correspond à une atmosphère particulière. Hein? Qu'on pense aux odeurs de nourriture qui se promènent dans la cuisine, les enfants qui courent partout, qui sont tout excités, qu'on pense à la musique, qu'on pense aux décorations, qu'on pense à la guignolée ou à la folie vertigineuse du magasinage. On sent que Noël, au Québec, ça a une couleur particulière, ça a un esprit particulier. Et une des choses qu'on pourrait dire pour résumer la pensée de qu'est-ce que c'est l'esprit Noël, eh bien, je vous propose la phrase suivante, c'est que là où est l'esprit de Noël, là est l'esprit de la vie. Hein, souvent, on dit que Noël, c'est l'amour. Moi, ce que j'aimerais vous dire ce matin, puis ce que j'aimerais vous démontrer dans les Écritures, c'est que l'esprit de Noël, oui, c'est l'amour, mais cet amour-là a un nom. Et surtout, cet amour-là s'est incarné, cet amour-là a pris une forme humaine, cet amour-là est basé sur un principe de vie. Et j'aimerais que vous réfléchissiez ce matin à penser au moment que vous avez passé ensemble cette semaine, et vous allez très vite vous apercevoir que, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on célèbre le fait, dans bien des foyers au Québec, qu'on soit croyant ou non, ce qu'on fait, c'est le fait d'être ensemble, le fait de vivre ensemble. C'est une fête où est-ce qu'on est plus généreux, on partage, on fait preuve de compassion, de générosité, on essaie de prendre du temps pour s'écouter, avoir du temps ensemble, célébrer un peu la famille. Même dans l'Antiquité, à cette période de l'année, avant même la naissance du Christ, on fêtait ce qu'on appelle le solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment dans l'année où est-ce que le soleil reprend vie, où est-ce que la lumière du jour commence à reprendre un peu de ses forces. On célébrait le fait que, bon, OK, la noirceur commence à diminuer, les jours commencent à rallonger. Bon, ça paraît pas encore tout à fait encore, mais au niveau de notre équinoxe, il y a cette dynamique-là qui arrive. Puis même les peuples de l'Antiquité, notamment les Romains, ils fêtaient ça. Et même encore aujourd'hui, on continue à fêter ça. Regardez à quel point Noël est centré sur, par exemple, quoi? Les enfants, l'entraide, la générosité, le fait de se retrouver en famille, le fait d'être solidaires les uns des autres, de vivre ensemble, est-ce que c'est pas ça que dans nos foyers, on fête ici au Québec? Évidemment, une des choses sur laquelle on peut questionner, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mot Noël? Noël, ça veut tout simplement dire naissance, ce qui est un mot évidemment très proche du mot vie. Qui dit vie dit également une naissance, qui dit naissance dit le principe même de la vie. Et évidemment, dans notre tradition ici chrétienne au Québec, ben c'est plutôt difficile de ne pas faire le lien, évidemment, avec la personne qui a donné un sens à cette fête, qui est évidemment la personne de Jésus. Bien que dans notre société, on soit de moins en moins sensible ou enclin à souligner cette donnée-là, eh bien, il faut avouer quand même que dans nos foyers, il y a encore des symboles très, très marquants qui symbolisent cet état d'esprit-là dans les fêtes. Allez, là, dans un centre d'achat, et qu'est-ce qu'on entend? Ben oui, on entend des chants profanes, mais on entend aussi des chants religieux. On voit des crèches. Allez au Canadian Tire, là, c'est rempli de crèches. On voit tout, même Playmobil a sorti, je crois l'année passée, des petites sorties de rois mages avec l'encens, la myrrhe. Alors, quand on célèbre Noël, il y a toujours cet aspect-là religieux, ou plutôt spirituel, qui représente évidemment la forme de Dieu qui est venu sur Terre, qui fait partie de notre folklore. Même si on y est moins sensible, même si ça dure peut-être un mois dans l'année, notre société en général est encore assez sensible à cette donnée-là qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a décidé de faire quelque chose. Dieu a décidé, on a vu la semaine passée, par son esprit, d'envoyer son Fils sur la terre. On a vu la semaine passée que Noël, l'esprit de Noël, est en fait plus vieux que l'événement de Noël. Et que cet esprit-là, c'est lui-même qui est à l'origine de la fête de Noël. Et que cet esprit-là de Noël, c'est en fait quoi? Bien, c'est l'esprit de Dieu qui intervient sur la terre pour accorder à l'humanité un sauveur du nom de Jésus. Simplement, peut-être pour vous rappeler un peu ce qu'on a vu la semaine passée à ce sujet-là, vous pouvez tourner avec moi dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2. Luc, chapitre 1, verset 35, nous dit ceci au sujet de l'Esprit de Dieu qui intervient pour l'humanité. Et là, le contexte, c'est qu'il y a un ange qui apparaît à Marie et qui lui dit ceci à propos du Fils qu'il va envoyer sur terre et qui va provenir de ses entrailles. Alors, voici ce que nous dit Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici clairement l'intention de l'Esprit de Dieu qui met en Marie un enfant. Une sainte semence par laquelle Marie va faire naître un sauveur, un Messie. Et ce qu'on voit ici, c'est que la naissance de Jésus est liée directement à l'Esprit de Dieu. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que le vrai Esprit de Noël, c'est donc l'Esprit d'un Dieu qui suscite et qui célèbre le principe de la vie. C'est Dieu qui décide de venir sur terre, de prendre une forme humaine, de s'incarner par le moyen de son Fils. Évidemment, il y en a peut-être parmi vous, ou dans le monde en général, qui vont se dire, ça Miguel, c'est de la bouillie pour les chats. Tout le monde sait que les lois naturelles de la biologie, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la procréation. Il y a beaucoup d'enfants ce matin, je pense que je vais passer vite là-dessus. Mais si on est ici aujourd'hui, beaucoup de gens vont penser, écoute Miguel, si on est ici aujourd'hui, là, c'est certainement pas par l'opération du Saint-Esprit. Il y a eu un papa, puis il y a une maman, puis à un moment donné, ça a fait un bébé. Mais c'est pas ça que cette histoire-là nous raconte. Est-ce qu'on peut se fier à l'histoire de Noël? À l'histoire d'un esprit de Dieu qui vient dans une jeune femme poser la semence pour faire naître un Dieu fait homme? C'est une bonne question. On va y revenir un peu plus tard. Il y en a qui en doutent. On va y revenir un peu plus tard, juste pour essayer de comprendre comment cet aspect-là a pu se souligner. Mais ce que j'aimerais simplement mettre l'emphase ici, c'est que quand on parle de l'Esprit de Noël dans les Évangiles, on ne peut pas dissocier le fait que l'Esprit de Dieu est intervenu. S'il y en a qui veulent encore des preuves de la Trinité, là, bien, on voit ici clairement une manifestation vivante de la Trinité, où est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur Marie et qui pose une semence qui s'appelle le Christ, le Dieu vivant, du nom de Jésus. Et ce qu'on souligne à Noël, c'est le fait que Dieu, qui est riche, qui est le créateur de toutes choses dans l'univers, lui qui était riche, eh bien, il s'est fait pauvre en venant vers nous, en s'incarnant. Il a décidé de limiter pour un certain temps certains de ses attributs. Où est-ce que Jésus, quand il est venu sur terre, il n'était plus omniprésent comme il a pu l'être avant même sa création? Parce que ce qu'on nous dit dans la parole, c'est que ce Fils-là que Dieu a envoyé sur terre par son Esprit, eh bien, il était présent avant même son incarnation. On voit même que Jésus, dans tout l'Ancien Testament, il est même au centre de tout élément de la création, qu'il fait même partie de la vie de Dieu, et que ce qui est arrivé à Noël, c'est que Dieu, par son Esprit, a décidé de prendre une forme humaine, de s'incarner par le moyen de ce Fils-là. Mais ce Fils-là existait avant même son incarnation. Vous me suivez? Alors, ce matin, on jongle un peu avec des concepts abstraits, c'est des choses que vous savez. Peut-être qu'il y en a qui sont moins habitués à ce genre de logique-là. Mais c'est important de comprendre que dans la parole, Noël, ce qu'on fête, c'est pas les débuts de Jésus. C'est simplement Jésus, Dieu, qui prend une forme humaine. Mais ce Jésus-là, le Fils, était là bien avant en esprit. Il était là en force. Et ce qu'on fête à Noël, c'est l'incarnation de ce Fils que Dieu nous a donné. Évidemment, on pourrait s'arrêter ici ce matin, puis ça serait suffisant pour nous émerveiller d'un Dieu généreux qui vient vers nous pour intervenir vers nous, pour donner un espoir à nos infirmités, à nos angoisses, à nos détresses, de voir un Dieu qui vient à notre aide, qui essaie de venir à notre rescousse et qui va réussir à la croix, en mourant pour nos fautes, à nous donner quelque chose, un espoir, quelque chose, une lumière au bout du tunnel. Cet événement-là serait suffisant pour nous dire, « Ah, ma vie est ténébreuse, ma vie est noire, mais j'ai espoir qu'au bout du tunnel, il y a quelque chose qui m'attend et que ce Fils-là qui a été donné par Dieu est suffisant pour continuer à vivre. » On pourrait fêter cela ce matin et ça serait suffisant pour nous émerveiller de la grandeur de Dieu. Mais vous savez quoi? Là ne s'est pas arrêté l'Esprit de Dieu. Là ne s'est pas arrêté l'Esprit de Dieu. Et ce que Dieu veut faire à travers son Esprit, c'est non seulement donner un Fils à l'humanité, un Fils qui puisse intercéder pour cette humanité qui souvent est prise avec toutes sortes de paradoxes, de doutes, et que Jésus-Christ puisse arriver pour donner une certaine assurance en ce qui concerne la personne de Dieu. Mais Dieu a fait plus que cela. Non seulement il a donné une vie physique à son Fils, mais ce qu'il veut faire à travers également l'Esprit de Noël, en envoyant son Fils, c'est nous faire la promesse que non seulement il peut donner la vie à son Fils, mais il peut nous donner cette vie à nous également. Le même Esprit qui a fait naître Jésus peut également être pour nous un principe de vie sensationnel, extraordinaire et éternel. J'aimerais que vous tourniez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Passage que plusieurs d'entre vous connaissaient bien. C'est l'histoire d'un homme, appelé Nicodème, qui va voir Jésus. Et Nicodème se pose beaucoup de questions sur Jésus. Nicodème voit agir Jésus, il voit parler, puis il se dit, hey, lui, il y a quelque chose de particulier. Ce gars-là, il y a quelque chose que jamais personne nous a parlé, puis il enseigne avec autorité. Il y a quelque chose qui émane de lui qui me semble que j'ai pas tout à fait compris, mais que j'ai besoin de comprendre. Et voici ce que fait cet homme-là lorsqu'il va voir Jésus au chapitre 3. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Passage célèbre des Écritures, où est-ce que Jésus dit ici quelque chose de particulier à un homme qui a besoin de repartir à zéro. Un homme qui sait qu'il est dans une route, mais il se pose beaucoup de questions. Et Jésus lui apporte une réponse. Et ce qu'il dit à Nicodème, c'est ceci, Jésus. Nicodème, si tu veux goûter à la vie que Dieu a pour toi, si tu veux goûter à tout ce que la vie a de précieux en réserve pour toi, tu as besoin d'une seule et unique chose. Si tu veux vivre en harmonie avec la personne de Dieu, si tu veux vivre dans une intimité relationnelle avec lui, tu as besoin d'une chose. Tu n'as pas besoin d'être un good boy. Tu n'as pas besoin d'essayer de bien faire les choses parce que les autres s'attendent à ça de toi. Tu n'as pas besoin d'être une bonne petite fille ou un bon petit garçon pour recevoir ton cadeau de Noël. Les enfants, ce matin, je suis convaincu que dans les cadeaux que vous avez eus, il y a la fameuse et célèbre phrase d'un personnage mythique de Noël qui dit « As-tu été sage cette année? » Et là, la réponse, c'est souvent « Ben oui, j'étais sage. Me donnes-tu mon cadeau? » Alors Dieu, c'est pas comme ça qu'il fonctionne avec nous. Il nous donne pas un cadeau parce qu'on a été sage. Il nous donne pas un cadeau parce qu'on a fait les choses qu'il fallait faire. Ce que Jésus dit ici à Nicodème, c'est que tu peux pas avoir une vie en relation avec Dieu parce que tu es la personne qu'il faut que tu sois. Au contraire, tu as besoin d'être une nouvelle personne. Tu as besoin de naître de nouveau. Et ce qu'on peut voir ici clairement, c'est que l'esprit de Noël, c'est le même esprit que la nouvelle naissance. Le même esprit qui a fait naître Jésus-Christ dans une auberge à Bethléem, il y a plus de ça, 2000 ans, est le même esprit qui peut aujourd'hui nous donner la même vie dont Jésus est animé et qui faisait de lui celui qu'il est. Évidemment, c'est peut-être difficile à comprendre. Comment est-ce que Jésus peut me faire naître de nouveau? Et regardez, Nicodème, il comprend pas comment il peut naître de nouveau. Mais regardez ce que Jésus lui dit au verset 8. « Le vent souffle où il veut, Nicodème, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ici de tout homme qui est né de l'Esprit. » Ce que Jésus dit ici, c'est que pour voir le vent agir, tu n'as pas besoin de savoir d'où il vient puis où il s'en va. C'est la même chose pour quelqu'un qui naît de nouveau. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu peux naître de nouveau de manière mécanique et opérationnelle pour savoir et porter les effets et les fruits de quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau porte du fruit. Dieu met sa vie en lui, il met son esprit en lui et il porte du fruit. Comment ça se fait ça? Comment toute la mécanique de tout ça s'enclenche? Eh bien, je n'ai pas de réponse pour vous, malheureusement. Il y a des manières de recevoir cet esprit-là, on va le voir tout à l'heure, mais comment tout ça s'enclenche? Bien, Jésus le dit ici, il dit, regarde, d'une certaine manière, de la même manière que le vent, tu ne sais pas d'où il vient puis où il va, bien, l'esprit, tu ne peux pas savoir exactement de quelle manière tout ça, il peut rentrer en toi de manière mécanique. Cependant, tu peux le voir, cet esprit-là, agir dans toi. Et là, j'aimerais revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la naissance du Christ. La naissance du Christ est un miracle. L'Esprit de Dieu a fait naître et a mis dans les entrailles de Marie un fils. Ça, c'est contraire à toutes les lois naturelles de la biologie. Mais est-ce que parce qu'on ne peut pas comprendre la mécanique de l'opération de ce geste divin, Jésus, il n'est pas marqué de la vie de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas voir les effets dans la vie de ce Jésus, la personne de Dieu, que ce soit dans ses miracles, dans la manière dont il a vécu, qu'il a parlé? On peut voir Dieu, son esprit agir. On peut voir la vie de Dieu dans la personne de Jésus, sans pour autant comprendre comment l'Esprit de Dieu a pu faire naître ce fils-là dans les entrailles de Marie. Vous me suivez? C'est pas parce que je comprends pas la mécanique que cette vérité-là, je dois l'acheter aux poubelles. Évidemment, c'est contraire à tout ce que la science aujourd'hui nous dit, mais j'aimerais avec vous, ce matin, simplement vous proposer l'affirmation que ce n'est pas parce que quelque chose est surnaturel qu'il n'y a pas une logique en arrière de ça. Il peut avoir une logique au surnaturel, et c'est pas parce qu'on comprend pas quelque chose qu'il n'y a pas une logique en arrière de toute cette situation-là. Regardez comment Jésus a vécu. Jésus, dans les Écritures, c'est pas juste un coach. C'est pas juste un mentor. C'est pas juste un personnage célèbre. C'est pas juste quelqu'un qui est venu comme d'autres grands hommes de l'humanité changer l'histoire. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais un homme qui a porté en lui la vie de Dieu comme Jésus l'a fait. Pourquoi? Bien parce que c'est Jésus qui l'a engendré. C'est tout simplement ça. Jésus-Christ est Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a engendré. Dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Jésus, il y avait l'ADN de Dieu. Il est animé de la même vie que Dieu est animé. Et c'est pour cela qu'il peut vous donner cette vie-là aujourd'hui à chacun d'entre vous. J'ai beaucoup de respect pour des hommes comme Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, des grands hommes, des hommes d'une résistance et d'une intelligence incroyable, des hommes aux convictions profondes, des hommes qui ont marqué leur histoire, leur peuple, leur nation, leur continent. Mais ces hommes-là ont une limite. Et cette limite-là, Jésus l'a transcendée. Ces hommes-là, malgré tout leur mérite, n'étaient pas animés de la vie de Dieu dont Jésus lui-même était animé. Même les musulmans vous diraient que Mahomet n'était pas animé de la vie de Dieu. Jésus, c'est le cas. Jésus, c'est le cas. Il peut vous donner cette vie-là spirituelle parce que Dieu l'a fait naître physiquement. L'esprit de Noël, c'est l'esprit de Dieu. Un esprit qui peut nous faire naître de nouveau. Et cette semaine-là, qui s'en vient, c'est un nouvel éveil pour nous. C'est 2015 qui arrive. Et qu'est-ce qu'on fait au jour de l'an? Traditionnellement, là, personnellement, quelle est la chose qu'un bon Québécois se doit de faire au jour de l'an? Prendre des résolutions. Ah, cette semaine, cette année, je devrais faire plus de sport. Je devrais prendre plus de temps de qualité avec mes enfants, avec ma femme. Ah, cette année, je devrais me forcer pour faire moins d'heures supplémentaires. Ah, je devrais réparer le cabanon. Ah, je devrais changer les fenêtres. On prend toutes sortes de résolutions. La résolution que nous lance Jésus ici dans ce texte est très simple. Premièrement, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? As-tu expérimenté la nouvelle naissance? Le fait que Jésus-Christ puisse venir vers toi et sceller ton cœur de la vie de Dieu. Et si tu es né de nouveau, la résolution qui se pose devant nous, c'est est-ce que notre vie est en harmonie avec cette nouvelle naissance-là? Est-ce que c'est mon but, mon objectif dans la vie? Est-ce que c'est ça qui donne un sens à ma vie pour 2015? Que toutes mes actions, mes décisions, mon être entier soient au même diapason que le fait que je sois né de nouveau. Est-ce que ma nouvelle naissance oriente mes choix de carrière? Est-ce que ma nouvelle naissance influence la manière dont je travaille? Est-ce que ma nouvelle naissance influence mes rapports avec mon voisin, avec mes enfants, avec ma femme? Est-ce que ma nouvelle naissance a un impact ou une influence dans mes finances, dans ma santé physique, dans ma prière? C'est des bonnes questions à se poser, constamment. Et je nous lance ce défi-là pour 2015. Est-ce que ma nouvelle naissance correspond vraiment à qui je suis et qu'est-ce que je fais au quotidien? Évidemment, vous allez peut-être me dire, « Bien, Miguel, moi, je ne suis pas né de nouveau. J'ai aucune idée de quoi tu parles. » Bien, le texte qu'on vient de lire nous propose une certaine réponse à ça. On va retourner dans Jean, au chapitre 3. On va lire les versets 13 à 18, où est-ce que Jésus nous explique c'est quoi la nouvelle naissance. Alors, pour vous, ça va peut-être être un passage que vous avez souvent lu, c'est peut-être du réchauffé, mais dites-vous que peut-être que la personne à côté de vous a besoin d'entendre ce qui va être lu. Alors, Jean 3, verset 13, nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » On voit ici très bien que Jésus était dans le ciel et qui est descendu sur terre par le moyen de l'Esprit de Dieu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ici, on parle de la crucifixion de Jésus qui allait venir une trentaine d'années plus tard. « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'y a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jésus ici nous expose que c'est la nouvelle naissance. Il nous expose le fait que j'ai besoin de quelqu'un qui prenne le poids de mes péchés. Naturellement, un être humain est privé de la vie de Dieu. Lorsqu'un enfant naît, nous dit les Écritures, il naît dans un état de séparation d'avec Dieu. Ils sont plus sincèrement, son besoin le plus urgent, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est de croire que Jésus-Christ, à la croix, a porté ce dont je suis coupable pour pouvoir m'accorder sa vie dont Dieu le fait naître, une vie parfaite. Et la minute que je crois cela profondément, la minute que je mets toute ma confiance dans le fait de pouvoir être réconcilié avec Dieu, l'instant momentané où est-ce que je dis à Dieu, je suis séparé de toi et mon plus grand besoin, c'est d'être réconcilié avec toi et je suis conscient que ce que j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui prenne mon châtiment, ce que Jésus-Christ a fait à la croix, la minute que je crois cela, que je mets ma confiance en cela, que je crois que mon identité, je passe de quelqu'un qui est châtié, perdu à cause de ses fautes, à quelqu'un qui est pardonné de ses fautes, parce que Jésus-Christ a payé le prix, à ce moment-là, les Écritures nous disent que Dieu me scelle de son Esprit Saint, l'Esprit même qui a fait naître physiquement Jésus, eh bien, il nous fait naître de manière spirituelle. Il me fait naître de nouveau. Je passe d'un état de condamnation à un état de réconciliation à cause d'une seule personne, celui qui est animé de la vie même de Dieu, Jésus-Christ. Là où est l'esprit de Noël, là est l'esprit de la vie. Là où est l'esprit de Dieu, là est l'Esprit qui a fait naître Jésus-Christ. Mais Noël, c'est également le même Esprit qui m'a fait naître de nouveau. Et il y a un texte formidable dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, qui nous explique, qui nous donne une belle image de ce que ça veut dire, de ce qui se passe au niveau mécanique. Pas dans tous les détails, mais il y a une image formidable dans Ézéchiel au chapitre 37. Ce matin, j'ai pris mon Nouveau Testament, j'ai pas pris mon Ancien, donc je vais vous lire le texte sur le en diaporama. Donc, dans Ézéchiel 37, voici ce qu'on nous dit. Tu n'as pas Ézéchiel 37? Merci, Esther. Très gentil. Je suis désolé. J'avais la référence. Alors, voici ce que nous dit Ézéchiel 37. Esther, pendant que la Bible, je te bénis de la lecture. Ézéchiel 37 nous dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi. Alors, c'est le prophète Ézéchiel qui nous parle. Et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Alors, c'est ce que j'étais. C'est ce que nous étions avant de connaître Dieu, des ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Il me répondit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je fais venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut comme un frémissement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus tout. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. Ce fut une très, très grande armée. Plus loin, dans le texte, au verset 13, on nous dit, « Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai sur votre territoire. Et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. » Merci, Esther. Voyez-vous, ce qu'on voit dans ce texte, dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, c'est que Dieu prend des eaux desséchées, il fait souffler son esprit sur ces eaux, et là, il y a une reconstruction de tous les corps qui étaient jadis et qui est maintenant en eau. Dieu reconstruit à partir de son esprit. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire par la nouvelle naissance. Reconstruire qui nous sommes, reconstruire notre identité, nous faire passer de ossements qui sont nombreux et secs à un corps spirituel. Un corps qui est en nous et qui, constamment, par l'évangile de Jésus-Christ, par son esprit qui est en nous, redéfinir qui nous sommes. Reconstruire nos ambitions, nos rêves, nos désirs, nos idées. Tout ce qui est en nous, Dieu désire reconstruire cela parce que son esprit est maintenant en nous qui croyons dans le Fils de Dieu. Vous savez, dans beaucoup de familles cette semaine, il y a des gens qui ont célébré la fête de Noël. Pour beaucoup de foyers, Noël, ça a été une source de grande paix, de réconfort, de festivité. Et vous savez, il y a quelque chose de tragique là-dedans. C'est en même temps beau, mais c'est en même temps tragique parce que cette célébration-là est bien souvent coupée de l'essence de ce qui devrait faire leur célébration, c'est-à-dire l'événement lui-même de Noël. Lorsqu'on parle à ces gens-là qui se réjouissent de Noël, eh bien pour eux, souvent ça peut ressembler, par exemple, à un mariage. Où est-ce que des gens boivent, rient, dansent plus que tout le monde, sauf qu'ils connaissent même pas les mariés. Pour eux, c'est juste un party. C'est une festivité qui est complètement coupée de l'événement lui-même de Noël, de son esprit profond. Ôtez-leur la fête de Noël et vous enlevez la célébration. J'espère qu'il n'en est pas de même pour vous. Parce que nous, notre joie, ce n'est pas la musique traditionnelle de Noël. Ce n'est pas les poinsettias, ce n'est pas les sapins décorés, ce n'est pas le punch de grand-maman, ce n'est pas le gâteau aux fruits de ma tante Germaine. C'est pas ça la vraie fête de Noël. Oui, c'est à côté, puis ça, c'est comme ça donne une petite couleur folklorique, puis c'est intéressant, puis il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à fêter puis à avoir ces éléments-là autour de nous. Mais lorsque ces choses-là prennent plus d'importance que l'événement lui-même de Noël, il y a un problème parce que la célébration est coupée de l'événement. Et cet événement-là est authentique. Si vous doutez de cet esprit-là de Noël qui est venu sur terre, je suis triste pour vous. Je suis triste pour vous. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous manquez. La vie riche et précieuse que Dieu a en réserve pour nous et qu'il nous a accordée par son Fils qui désire reconstruire en nous tout ce qui est mauvais. Oui, on sera, je vous dirai, Miguel, je fais encore des choses mauvaises puis ça arrêtera pas tout le long de ma vie. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est un processus. On n'aura jamais fini jusqu'au dernier bout à être transformé par la gloire de ce Fils-là qui a mis son esprit en nous. Mais dites-vous une chose, il y a un commencement à tout. C'est pas parce que j'ai pas espoir d'arriver au bout de la course que je suis pas capable de cheminer, de progresser dans la connaissance de cet esprit-là qui aujourd'hui veut me faire renaître, veut me lier à la personne de Dieu. J'aimerais simplement terminer en vous lisant un passage dans l'Évangile de Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 12. Voici ce que nous dit le passage. C'est Jésus qui nous parle et qui nous dit ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est une promesse que Dieu nous donne ici, que Jésus nous donne, que celui qui suit Jésus, celui qui non seulement fait une profession de foi envers la grâce qu'il peut recevoir pour les pardons de ses péchés à travers Jésus, mais qui prend également la décision de suivre Jésus, de le voir comme un chef. Celui-là, il aura en lui la lumière de la vie. Est-ce que l'esprit de Noël, c'est pas un esprit de fête qui célèbre la vie? J'espère que vous avez célébré cette fête-là cette semaine. Ce que j'aimerais, c'est que cette vie-là ne puisse pas s'arrêter à un simple mois de l'année où est-ce qu'on est heureux d'être ensemble en famille, mais que ce moment-là de l'année puisse pour nous quelque chose qui nous galvanise pour le reste de l'année et qui nous connecte directement à ce Fils qui renouvelle constamment nos forces, qui nous remplit constamment de son esprit, dans la prière, dans la méditation, dans la communion fraternelle, dans nos petits groupes, dans nos célébrations du dimanche, dans nos rassemblements. Oscar va être content. J'espère que vous connaissez cet esprit. Et si vous ne le connaissez pas, et que vous avez un ami à côté de vous, quelqu'un qui vous a invité, demandez-lui. Il dit, je ne connais pas cet esprit-là. Il dit, est-ce que tu veux m'en parler? Veux-tu m'en parler plus? Il dit, ça me manque ça dans ma vie. Ça me manque dans ma vie d'être en communion avec un esprit qui renouvelle ce que je ne suis pas capable moi-même de renouveler. C'est ça la nouvelle naissance. Avoir confiance dans un Dieu qui généreusement est intervenu par son esprit pour nous donner un fils qui peut nous faire naître de nouveau par son esprit. Je vais terminer là-dessus. Il y a un physicien américain du nom de Richard Oppenheimer. C'est le père de la bombe atomique. Bon, ce matin, peut-être que vous n'entendiez pas parler de la bombe atomique, mais qui a dit une phrase intéressante qui nous a dit « Le meilleur moyen de propager une idée, donc le meilleur moyen, l'idée ici, c'est le fait qu'on peut naître de nouveau, que Dieu peut être réconcilié avec nous. Le meilleur moyen de propager une idée, c'est d'intervenir personnellement. Le meilleur moyen de faire diffuser une information, c'est de s'engager dans l'information, pas juste être un messager, mais également être le message, incarner le message. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que Dieu a fait à cette période de l'année? Incarner le fait que non seulement il peut donner la vie à son fils, l'incarner, mais qu'il offre la même proposition à chacun d'entre nous. De naître de nouveau et de reconstruire nos vies par ce fils qui est digne de toute louange et qu'on veut vénérer ce matin, se courber et honorer par nos lèvres. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur grand Dieu, ce matin, on est émerveillé de non seulement tout ce que tu fais pour nous, mais on veut être émerveillé de tout ce que tu veux continuer à faire en nous. Ton esprit est venu en cette période de Noël nous donner un rédempteur, un prince admirable, ton fils, celui qui est animé de ta vie. Et tu l'as donné afin qu'il puisse être pour nous un gage de ton Esprit Saint que tu nous proposes aujourd'hui. Si nous sommes nés de nouveau aujourd'hui, Seigneur, apprends-nous à constamment sensibiliser nos esprits à sa présence, à se laisser humilier par toi et comprendre qui tu es afin que nous comprenions mieux qui nous sommes. Si nous ne te connaissons pas personnellement, on veut te prier pour que des cœurs puissent connaître qui tu es. C'est notre désir et notre désir et notre grand sentiment que tu puisses intervenir à Longueuil. Nous voulons croire, comme Paul, qu'il y a un grand somme. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ton esprit de Noël. Amen.